Bienvenue à la French Connection. Cette fois, on a un épisode spécial avec Guillaume Ross.
Salut.
C'est un épisode technique fait sur Bloodhound dans lequel Guillaume va nous parler. Donc, je vais le laisser tout de suite tomber direct dans le vif du sujet.
OK, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de Bloodhound ou Bloodhound for AD, donc Bloodhound pour Active Directory. C'est un outil que je trouve super intéressant, autant pour faire du Red Team Pentesting que pour faire du Blue Team. C'est vraiment bon pour les gens qui ont besoin de défendre leur environnement aussi. Parce que, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre votre Active Directory, comment il pourrait être attaqué. Puis bon, si vous voulez l'attaquer, ça va vous aider. Puis si vous voulez vous protéger, bien, c'est mieux si c'est vous qui utilisez Bloodhound en premier plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Donc, à la base, Bloodhound, c'est un outil qui est basé sur un database graphique, un graph database, spécifiquement Neo4j. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est aller extraire des données d'Active Directory, comme par exemple tous les utilisateurs, leurs permissions, les groupes desquels ils font partie, quel ordinateur il y a dans le domaine, c'est quoi les trusts du domaine, puis un paquet d'informations du genre, les ramener dans cette base de données Neo4j, puis après ça, comprendre c'est quoi les relations entre les différents objets dans Active Directory. Parce qu'avec les groupes, déjà, avec les groupes, ça peut devenir compliqué assez vite. T'sais, si je dis, OK, l'utilisateur Nicolas est dans le groupe administrateur de domaine, bon, tout le monde sait que, OK, si je réussis à avoir son compte à lui, puis je me log, je vais être administrateur de domaine. Bon, c'est facile. Mais peut-être que tu es dans le groupe IT Montréal ou IT Québec qui, lui, est dans le groupe administrateur de domaine. Donc là, on a un niveau de plus. On ne sait pas tout de suite que tu es dans administrateur de domaine. Il faut comprendre qu'il y a un groupe qui est dans un groupe. Mais souvent, dans des gros Active Directory, des fois dans des plus petits aussi, mais plus il est gros en général, plus c'est complexe. J'ai souvent vu des chaînes de groupes rentrer un dans l'autre comme des poupées russes qui vont jusqu'à 7, 8, facile. Donc, ça devient vraiment difficile de comprendre. Puis, il n'y a pas juste les groupes. Il y a les permissions sur chaque objet. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir le droit de changer le mot de passe d'un compte qui a plus de privilèges que lui. Par exemple, si votre helpdesk est capable de changer les mots de passe de quelqu'un qui a des privilèges admin sur le domaine, bien, automatiquement, votre helpdesk peut faire une élévation de privilèges en changeant le mot de passe d'une personne qui a plus de privilèges que eux. Donc, quelqu'un qui est capable d'avoir le mot de passe de quelqu'un au helpdesk est capable de faire ça. Mais tout ça, ça ne s'applique pas juste aux utilisateurs, ça s'applique aussi aux ordinateurs dans Active Directory, parce qu'un ordinateur peut avoir des permissions sur le domaine, peut avoir des permissions sur des usagers. Puis donc, l'idée avec Bloodhound, c'est de trouver comment on peut se rendre à Domain Admin. Comment est-ce qu'on peut prendre vraiment contrôle du domaine? Puis c'est quoi le chemin le plus efficace pour s'y rendre? Le ou les chemins? Parce qu'en général, à moins d'avoir un domaine très simple, il y a toujours plus qu'une façon de s'y rendre. Donc, pour utiliser Bloodhound, ça fonctionne sur Mac, Windows, Linux. En gros, vous avez Bloodhound à télécharger. Vous avez Neo4j, qui est la base de données à télécharger, qui le J dans Neo4j, c'est pour Java. Donc, malheureusement, vous allez avoir besoin d'avoir Java. C'est pour ça que je fais toujours ça d'une machine virtuelle. Donc, vous installez Neo4j. Ensuite, vous installez Bloodhound. Les instructions sur le site sont assez simples. Ce qui va créer la structure de base de données. Donc, quand vous vous connectez à Bloodhound, c'est par une interface web qui se connecte à la base de données Neo4j. Vous n'aurez plus de données encore, mais vous allez déjà pouvoir voir les types de données qu'on s'attend d'avoir dans cette interface-là, comme par exemple, justement, des utilisateurs, des trusts de domaine, des trucs comme ça, mais tous les compteurs vont être à zéro parce que, bon, vous n'avez aucune donnée. Donc, la première chose qu'il faut faire par la suite pour commencer à soit attaquer un domaine ou vouloir le protéger, c'est d'aller chercher l'information sur ce domaine-là. Puis, pour faire ça, il faut utiliser l'outil SharpHound, qui est l'outil de collection de données qui vient avec Bloodhound. Donc, ça peut être exécuté complètement séparément. Donc, ça peut être vraiment pratique si, par exemple, vous avez accès à un système qui est connecté sur le domaine, mais ce n'est pas un système où ce que vous voulez installer Java, Neo4j, la base de données. C'est peut-être un système où vous avez juste un accès par un shell. Vous n'avez peut-être même pas accès à une console graphique. Dépendant comment vous avez eu accès au domaine, ben, vous avez juste à exécuter SharpHound qui est assez, qui n'a pas vraiment beaucoup de dépendance. Quand vous exécutez SharpHound, bon, par défaut, il va se connecter au domaine de la machine sur laquelle vous l'exécutez. Évidemment, vous pouvez spécifier ça à la main. Vous pouvez même spécifier quel contrôleur de domaine vous voulez qui se connecte dessus. Puis vous pouvez ensuite spécifier les types d'informations que vous voulez aller chercher. Donc, par défaut, Il va aller chercher la liste des groupes, la liste des trusts, la liste des admins locaux pour les systèmes où il est capable de l'énumérer, puis la liste des sessions, ça veut dire qui est logué où. Parce que des fois, c'est très important de savoir que quelqu'un qui a des privilèges bien élevés, il est logué sur telle machine, parce que ça veut dire qu'on peut aller voler ses credentials en mémoire sur ces machines-là. Donc, tu sais, des fois, un serveur qu'on pense qui n'est pas super important, genre, c'est juste le serveur d'impression, ben oups, c'est peut-être comme 2000 personnes qui ont déjà imprimé dessus dans la dernière journée, puis tous leurs comptes sont encore en mémoire. Donc ça, c'est la collection par défaut, mais on peut aussi aller chercher plus d'informations avec Bloodhound, SharpHound en fait, dont les permissions sur Remote Desktop, sur DCOM. Est-ce qu'il y a des groupes à local admin qui sont configurés par des GPO? Est-ce qu'il y a des containers? Est-ce qu'il y a des informations qu'on peut aller chercher juste par Active Directory, ou est-ce qu'on veut qu'il se connecte aussi aux ordinateurs qu'il va trouver sur Active Directory? Donc, vous pouvez configurer cette collection-là, mais il faut quand même faire attention si vous êtes dans un mode offensif. Si vous faites ça pour protéger votre Active Directory, il n'y a pas trop de négatifs à aller chercher le plus d'informations possible. SharpHound, on spécifie toutes les options qu'on veut, let's go. Mais ça va être très, très bruyant, parce qu'il va se connecter sur le contrôleur de domaine, sur au moins un contrôleur de domaine, puis il va tout aller chercher ce qu'il y a à travers LDAP, il va monter sa base de données, mais il va aussi essayer de se connecter sur un paquet d'ordinateurs pour voir est-ce qu'il y a des sessions qui sont ouvertes, qui est local admin sur ces ordinateurs-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est le genre de choses qui est assez facile à énumérer dans Windows en général avec un compte utilisateur normal. C'est sûr que plus les privilèges du compte avec lequel vous allez exécuter SharpHound est élevé, plus il y a de chances qu'ils réussissent à aller chercher toute cette info-là. Mais en général, avec un compte user normal, ça va bien. Mais tu sais, générer des millions de connexions et lire l'Active Directory au complet d'un coup, c'est une assez bonne façon de se faire détecter. Donc, si vous utilisez SharpHound dans un mode un peu plus stealth, si on veut, bien, peut-être vous pourriez aller chercher l'information, seulement l'information qui se retrouve sur les Domain Controllers avec l'option DC Only. Comme ça, il va se connecter juste sur un Domain Controller. Il ne va pas commencer à faire du WMI puis du RPC vers tous les ordinateurs du domaine, qui est un petit peu noisy. Puis aussi, il y a une option Stealth, un peu pour ralentir la collection. Donc, il va juste avoir une thread. Au lieu d'essayer d'y aller le plus rapidement possible, bien là, on va avoir juste une thread à la fois. Bon, c'est clair que s'il y a un bon Blue Team de l'autre côté qui regarde ça, vous allez probablement vous faire détecter, même si vous utilisez ces options-là, à moins d'aller vraiment tranquillement ou de spécifier seulement certains OU où vous voulez aller chercher de l'information. Vous êtes obligé de lire tout le domaine d'un coup. Donc, vous pouvez aller chercher un petit peu d'informations à gauche et à droite avec SharpHound et vous pouvez loader ces informations-là dans Bloodhound, dans l'interface web ou il y a des command line aussi, vous faites juste loader l'information, ça se rajoute à la base de données. Donc, si c'est, par exemple, vous faites un pentest qui est d'une durée assez longue, bien, vous pouvez aller chercher des données au début, aller en prendre un peu plus, vous vous rendez compte que vous ne faites pas vraiment détecter, vous essayez d'en lire encore plus, vous pouvez toujours les rajouter dans la base de données, puis ça va se mettre à jour, puis tout va être là. D'un côté, Blue Team, si vous avez un vraiment gros domaine, c'est certain que ça peut prendre du temps, ça prend quand même pas nécessairement tant de bandes passantes, mais si vous avez des contrôleurs de domaine qui sont déjà proches de leur limite, je vous dirais, si vous voulez lire toute l'information puis faire ça vraiment de la façon la plus bruyante mais la plus rapide possible, peut-être pas faire ça à 8h30 un lundi matin, là, peut-être le faire à un moment où les contrôleurs de domaine sont un petit peu moins en demande. Donc, quand vous exécutez SharpHound, il va ensuite vous générer un fichier qui va contenir ce que vous allez insérer dans la base de données de Bloodhound. Ce fichier-là, en passant, en runnant SharpHound, vous pouvez le chiffrer directement. Donc, si vous avez accès à un système d'une manière X, puis vous ne voulez pas que ce fichier-là, avec tout le contenu du domaine, soit facilement trouvable pour quelqu'un qui est en train de le regarder, vous pouvez le chiffrer à même le command line de SharpHound. Comme ça, moi, si quelqu'un le trouve, il ne va pas instantanément savoir que, oups, quelqu'un vient d'énumérer mon Active Directory au complet avec SharpHound. Fait que la prochaine étape, il va rouler Bloodhound. Fait que ça peut vous gagner un petit peu de temps. Après ça, vous allez loader ces données-là dans Bloodhound, ce qui demande de quand même un peu de mémoire. Si votre domaine est assez gros, c'est en Java, c'est un Graph Database, c'est sûr que je ne vous recommanderais pas de faire ça dans une VM qui a juste 2 GB de RAM. Donc, si vous avez des problèmes, pensez à juste ajouter plus de RAM, vous n'en aurez pas de trop. Une fois que vous avez lancé l'interface de Bloodhound puis que vous avez loadé cette base de données-là, vous allez voir les compteurs vont commencer à monter. Puis c'est là que vous allez savoir que, OK, ce que j'ai fait a fonctionné. J'ai 25 000 comptes utilisateurs dans mon Active Directory, ils sont tous là. J'ai tant d'ordinateurs, ils sont tous là. Puis vous allez aussi avoir des statistiques sur les sessions puis les autres types d'objets que vous pouvez avoir collectés avec SharpHound. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer à faire des requêtes manuelles, qui sont des requêtes dans le langage de Neo4j. Mais si vous ne connaissez pas ce langage-là, ça peut être un petit peu difficile de commencer. Mais Bloodhound vient avec un paquet de requêtes qui font déjà partie de Bloodhound, puis la capacité aussi de pivoter sur certains objets. Donc, vous allez voir dans un panneau à gauche, vous avez déjà des requêtes qui sont pré-écrites pour vous, puis vous pouvez facilement les exécuter pour avoir la réponse à certaines questions. Donc, par exemple, une des premières requêtes en haut, c'est « Trouver tous les domain admins »,« Find all domain admins ». Mais ce que ça va faire quand vous cliquez là-dessus, c'est qu'il va passer à travers la base de données, puis il va dire « OK, dans le groupe domain admins, il y a ces 5 personnes-là. Mais dans le groupe domain admins, il y a ce groupe-là qui contient ces groupes-là, qui contiennent ces personnes-là, qui contiennent ces groupes-là, qui contiennent ces personnes-là. » Il va vraiment passer à travers toute la chaîne, puis il va vous dire « Ah, il n'y a peut-être pas juste un domain admin finalement, ou il n'y en a peut-être pas juste les 5 qu'on voit dans le groupe domain admin, mais en réalité, il y en a peut-être 40. » Donc, si vous êtes en train de faire un pentest, ben, ça devient 40 usagers que vous pouvez viser directement. Ou si vous voulez protéger votre environnement, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal plus de domain admin que vous pensiez. Puis il y a peut-être certains de ces comptes-là, si vous ne pensiez pas qu'ils étaient domain admin, qui n'auront pas été sécurisés autant que les autres. Mais là, c'est encore assez de base. Je veux dire, on parle de groupes qui sont membres d'autres groupes. Mais déjà, on peut avoir un niveau un petit peu plus avancé avec la deuxième requête qui est « Find shortest paths to domain admins ». Là, ce que Bloodhound va vous donner, c'est le chemin le plus court vers un domain admin. Donc, parmi ces 40 usagers-là que vous avez qui sont domain admin, bien, ça se peut qu'il y en ait un de ces usagers-là qui soit logué sur un poste de travail où vous avez déjà un compte qui est admin, donc vous allez pouvoir lire en mémoire son hash ou son mot de passe. Mais comment Bloodhound va le savoir que vous avez le contrôle de quelque chose? À chaque fois que vous avez l'interface graphique de Bloodhound puis que vous voyez un nœud qui est un ordinateur ou un usager, on peut faire un right-click dessus puis dire soit ça, c'est un objet qui est intéressant, donc qui m'intéresse. Donc, peut-être focusser un peu plus dessus quand on va essayer de résoudre un chemin vers un autre. Ou dire, ça, c'est un objet que je contrôle. Donc, si vous êtes en train de faire un pentest puis vous avez déjà accès à quelques serveurs à gauche et à droite puis quelques comptes Active Directory, mais qui n'ont peut-être pas assez de privilèges, vous pouvez déjà y aller soit dans le graphique ou dans Node Info, dire « OK, tous ces objets-là, c'est déjà moi qui les contrôle. » Fait que là, quand vous allez dire « Je veux trouver le plus court chemin vers le domain admin », Bloodhound va déjà savoir que « OK, vous contrôlez ce serveur-là. » Mais sur ce serveur-là, il y a peut-être une session qui est ouverte de Bob. Puis Bob est local admin sur un autre serveur où il y a quelqu'un qui est logué, qui est domain admin. Donc, à travers le serveur 1, vous allez pouvoir prendre contrôle du compte de Bob. Ensuite, du compte de Bob, vous allez pouvoir prendre contrôle du serveur 2. Et du serveur 2, vous allez pouvoir prendre contrôle de l'usager qui est administrateur de domaine. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de trouver ces chemins-là en utilisant l'information qu'il y a dans Active Directory, puis l'information que vous allez soumettre à Bloodhound, qui est en gros l'information sur soit ce que vous visez, parce que bon, on parle beaucoup de domain admin, parce que Bloodhound, c'est basé sur Active Directory, mais il y a beaucoup de cas où vous n'avez pas besoin d'aller chercher domain admin pour aller chercher ce que vous voulez. Donc, par exemple, si vous étiez en train de tester la sécurité d'un environnement de base de données, puis vous savez quel serveur héberge les bases de données-là, puis quels sont les groupes qui donnent un accès administrateur aux bases de données, vous pouvez facilement faire les mêmes requêtes vers ces mêmes groupes-là. Puis quand vous sélectionnez ces requêtes-là, vous pouvez voir la requête dans l'onglet Raw Query en bas. Donc, ça va vous donner une manière d'apprendre comment faire ce genre de requêtes-là sur Bloodhound. Puis il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà incluses, qui sont super intéressantes, comme trouver tous les serveurs où un utilisateur du domaine peut faire un remote desktop, par exemple. Il y a toujours plein de serveurs qui sont oubliés à gauche puis à droite, qui ont déjà servi pour du terminal server ou quelqu'un n'a pas fait attention en configurant les permissions. Donc, je recommanderais fortement à tout le monde qui a un domaine à protéger de passer à travers au moins ces requêtes-là par défaut pour voir est-ce que vous avez des vulnérabilités qui sont vraiment évidentes ou peut-être vous avez juste certains problèmes avec certains groupes qui sont plus puissants que vous saviez que vous devriez aller nettoyer. Puis c'est un outil que je recommanderais si vous êtes dans un Blue Team de rouler de façon très régulière. Donc, SharpHound, ça fonctionne en command line. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne voudriez pas avoir un snapshot à jour de votre environnement Active Directory là-dedans, parce que ça peut vous être super pratique pour plein d'autres raisons. Donc là, on regarde vraiment le domaine vu de haut. Mais dans d'autres cas, vous allez peut-être vouloir faire un threat model sur une application spécifique, mais c'est vraiment intéressant d'avoir toute cette information d'Active Directory-là dans un graph. Parce que combien de fois, je faisais vraiment beaucoup d'Active Directory, là, il y a 10-15 ans, presque juste ça que je faisais, puis combien de fois je me disais, je veux savoir qui a vraiment accès à ce serveur-là. Puis à chaque fois, il fallait manuellement prendre la liste des membres, aller voir les autres groupes, ou tu sais, faire des scripts un peu pas super clean pour essayer d'énumérer. Puis là, il y a toujours une espèce de loop. Là. Le groupe A est dans le groupe B, qui est dans le groupe C, qui est dans le groupe A. Puis tu sais, tes scripts croches ne sont jamais vraiment capables de gérer ces cas d'exception-là. Mais là, avec Bloodhound, vous n'avez plus besoin de vous faire ces outils-là. Puis c'est vraiment, vraiment pratique. Fait que c'est même un outil que je recommanderais aux gens juste qui travaillent beaucoup avec Active Directory. Si vous ne connaissez pas l'étendue des données que quelqu'un peut collecter sur Active Directory avec un compte usager normal, bien, je vous recommanderais que la première fois que vous l'utilisiez, utilisez un compte normal qui n'a vraiment pas de privilèges juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis par la suite, bien, si vous défendez vraiment un domaine, bien là, vous pourriez peut-être l'exécuter avec un compte qui a plus de privilèges pour être capable d'aller lire certains trucs que sinon vous ne pourriez pas aller lire, comme par exemple les sessions sur certains serveurs qui vont être plus protégés. Donc, ce n'est pas un outil qui est compliqué à commencer à utiliser, mais qui a plusieurs utilisations différentes. C'est très, très graphique, là. Donc, malheureusement, on est juste en audio en ce moment, fait que ça peut être un peu difficile à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vu avant, mais essayez d'imaginer un graphique qui ressemble un peu à un schéma organisationnel qui vous montre vraiment le chemin entre toutes les ressources dans votre domaine vers ce que vous voulez attaquer, que ce soit domaine admin ou un serveur spécifique ou un groupe spécifique ou un usager spécifique. Donc, du moment que vous avez trouvé le chemin qui a le moins de nœuds à passer, bien, vous pouvez commencer à attaquer en commençant par ça. Donc, ça fait le tour de Bloodhound en gros. Nicolas, as-tu des questions?
Et j'ai des questions. Comme Blue Team, à quel point ça fait du bruit, ça? Parce que là, de faire des requêtes dans l'AD, ça crée une certaine trace, mais y a-tu vraiment, au-delà de ça, de signaux clairs qu'on peut voir qu'il y a Bloodhound qui roule?
Oui, surtout comme par défaut, il va se connecter sur les ordinateurs pour essayer d'énumérer les sessions puis les local admin. Fait que ça, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont détecter ça comme du mouvement latéral, parce que c'est exactement du mouvement latéral, mais de masse. T'sais. Fait que ça pourrait même un peu avoir l'air de y a-t-il un ransomware qui essaie de se propager là? Pourquoi il y a un ordinateur qui vient de se connecter sur 1000 serveurs en quelques minutes? Si on utilise l'option DC only, bien là, ça va dépendre à quel point les gens font du monitoring de leur Active Directory. Parce que là, au moins, il n'y aura pas des connexions qui vont se faire au niveau réseau vers tout ce qu'il y a dans le réseau. Ça va vraiment être une connexion vers LDAP sur un domain controller ou un global catalogue. Là.
C'est ça. Donc, il faut avoir une bonne vue sur mes logs de DC pour être capable de voir que quelqu'un a commencé à arriver puis a énuméré en fou.
Ouais, je dirais même une autre façon de se faire prendre en utilisant Bloodhound, c'est justement si tu y vas vraiment intense. Puis, c'est une compagnie qui n'a pas nécessairement un super bon Blue Team, mais qui est quand même bonne en monitoring de performance. Puis, les endroits où j'ai vu qu'ils monitoraient bien leur Active Directory pour la performance, parce que, le temps que les gens se loguent au réseau, tu sais, tous les impacts de performance que ça peut avoir quand un domain controller est surchargé, bien, des fois, ça peut lever une alerte quelque part. Puis là, si quelqu'un se met à creuser, il va peut-être se mettre à se rendre compte que, toutes les requêtes viennent d'une machine, c'est un peu louche. Mais pour ça, une technique qui pourrait être utile pour pas avoir à faire face à ça, c'est la plupart des compagnies ont plusieurs contrôleurs de domaine. En tout cas, j'espère que vous en avez soit zéro, soit plusieurs, parce que si vous en avez juste un, c'est pas vraiment un bon point de départ. Bien, il y en a beaucoup qui ont des contrôleurs de domaine qui ont vraiment pas beaucoup de clients qui se connectent, puis souvent, c'est assez facile de le savoir en regardant dans quel site ils sont placés, ou même des fois juste avec leur nom. Fait que, tu sais, il y a un contrôleur de domaine qui est aussi puissant que tous les autres, mais dans un bureau avec 17 employés, puis les autres contrôleurs de domaine, il y a 7000 employés, bien, vous risquez peut-être moins d'avoir des alertes de performance, ou même, tu sais, ça pourrait être un usager qui appelle pour dire « Ah, j'ai de la misère à me loguer sur AD, c'est lent » ou quelque chose comme ça. Fait. Mais utiliser l'option Stealth en commençant, ça c'est clair, puis DC only pour pas trop faire de connexion latérale.
Pour limiter. D'un point de vue mise à jour, d'un point de vue peut-être pas moins Bluetooth dans ce cas-ci, mais de gestion permanente, parce que est-ce qu'il recharge la base de données à chaque fois ou c'est un delta qui ressort à chaque fois que tu recharges les données?
Il va mettre à jour la base de données, sauf que SharpHound, quand il fait sa collection, il va aller tout chercher. Donc, quand tu vas prendre le fichier que SharpHound génère, c'est vraiment toute l'info sur Active Directory, mais tu peux la reloader par-dessus ta base de données Neo4j, puis il va mettre à jour ce qui a à être mis à jour. Mais de temps en temps, même, je la viderai, cette base de données-là, puis je la recommencerai. Ce n'est pas vraiment fait pour être maintenu sur une longue période de temps. Je ne suis pas certain ce que ça fait quand, par exemple, des objets sont effacés. Je ne suis pas certain qu'ils vont être enlevés quand vous allez loader un nouvel update. Là.
C'est un peu l'essentiel de ma question, de voir s'il y avait une historique qui était maintenue, de toute apparence, non. Donc, si ce n'est pas adapté à ça, effectivement...
C'est vraiment pour un snapshot. Fait que moi, ce que j'aime, c'est le rouler à toutes les semaines ou les mois, puis le loader dans une nouvelle base de données, passer à travers les mêmes requêtes fréquemment. Donc, OK, c'est quoi la liste des domaines admin? C'est quoi le chemin le plus court vers un domaine admin? Puis après ça, c'est quoi le chemin le plus court vers... Bon, des serveurs critiques ou des groupes critiques que vous avez identifiés d'avance, parce que c'est pas rare qu'on va voir que tout à coup, il y a quelqu'un qui a changé un groupe à telle place, puis là, maintenant, ça veut dire que le groupe helpdesk est maintenant local admin sur un file server où ce que il y a toujours des domain admin qui sont logués, tu sais, ce genre de truc-là.
Ouais, pour avoir vu plusieurs cas, effectivement, il peut y avoir un petit peu de avec le temps, s'accumuler des choses qu'on ne voit pas changer. Puis des fois, de toute façon, la disponibilité est souvent une urgence. On règle le problème, mais on ne nettoie pas correctement ce qui suit après.
C'est ça. Puis de toute façon, aussi, les permissions de Active Directory puis de Windows sont tellement distribuées que des fois, c'est presque impossible au fil du temps de garder ça clean. C'est, par exemple, si j'ai un compte Active Directory pour une compagnie, puis je change complètement de rôle pour cette compagnie-là. Tu sais, je travaille encore pour la même compagnie, mais mes responsabilités changent complètement. C'est facile pour quelqu'un dans Active Directory d'aller enlever les groupes desquels je fais partie puis de me mettre dans des nouveaux groupes. Mais qu'est-ce qui est très difficile, c'est de voir est-ce que j'ai des permissions qui sont déclarées de façon explicite sur des fichiers, sur des serveurs ou des services, des clés de registre, tout ça. C'est vraiment difficile parce qu'il faudrait chercher à travers tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Bien, avec Bloodhound, évidemment, vous ne pouvez pas chercher sur tous les ACL de tous les objets Windows dans votre entreprise. Pas que ça serait techniquement impossible, là, mais je pense que ça serait assez long. Mais au moins, vous pouvez regarder toutes les permissions DCOM, les permissions Remote Desktop puis ces trucs-là parce que ça finit toujours par s'étendre un peu plus qu'on pense. T'sais, si on ne le regarde pas fréquemment pour faire du nettoyage, c'est certain qu'un jour ou l'autre, ça va commencer à varier, puis éventuellement, ça va être une catastrophe.
Effectivement, mais de toute façon, ça, tu le dis, un des plus gros problèmes de Windows, c'est que la distribution de ses droits est partout, puis on en perd souvent le contrôle assez rapidement. Là. C'est pour ça qu'ils mettent tant d'emphase sur la GIA, parce que c'est une façon de recentraliser le problème que tu mentionnes. Non, mais c'est pas le tour de mes questions, là, mais j'ai pas d'autre chose. Fait que je te remercie énormément. C'est très éclairant. J'espère que ça va partager avec les autres. Est-ce qu'on peut te rejoindre si des questions supplémentaires, vous voudrez aller peut-être un peu plus loin avec ça?
Oui, absolument. Vous pouvez me rejoindre soit sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est Gepetto42. Avec un P et un T. Et oui, je sais que c'est pas comme ça que c'est supposé de s'appeler. Puis sinon, par email, toujours facile. Je les lis en général pas mal toujours, même si je réponds pas toujours, mais j'essaye. C'est guillaume@binaryfactory.ca.
Merci beaucoup.
Merci.